France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Pour ouvrir mon portable, je montre ma tête et je ne suis pas toute seule. La plupart des portables récents fonctionnent comme ça désormais. C'est une forme de sécurité. Personne à part moi ne peut accéder à mes données. Pour mettre de la musique chez moi ou la radio, je demande à une boîte qui a même un prénom. Déjà, quand tous ces objets sont apparus, on a entendu « à ça, moi, jamais ». Sauf que depuis, on a été bien plus loin. Et depuis, surtout, on expérimente de plus en plus. Cette reconnaissance faciale de votre portable, elle existe évidemment à bien plus large échelle. Dans les aéroports, au moment de passer votre passeport, vous montrez votre tête. Il y a 102 systèmes de ce type à Orly et à Roissy. Il y a des tests en cours à Nice, à Lyon, à Marseille. C'est la même chose Gare du Nord. Lorsque vous allez à Londres, vous avez forcément entendu parler d'Alicem, une application à reconnaissance faciale qui permettra d'ouvrir des sites administratifs. C'est une réalité. Elle est en test au moment où on se parle. Et vous en entendrez parler très concrètement à la fin de cette année. On y pense aussi à l'entrée dans les banques, à cette reconnaissance faciale. À Nice, une expérimentation a eu lieu en février dernier dans toute la ville au moment du carnaval. Et puis, une reconnaissance faciale à l'entrée d'un lycée de Nice, d'un autre à Marseille, a été cette fois demandée et puis retoquée par la CNIL. Ici, on nous dit pas de danger, au contraire, pas de stockage des données. L'intelligence artificielle peut être éthique, elle peut être responsable. Est-ce qu'on peut maîtriser intégralement ces technologies? Est-ce qu'on peut dire non? Quelles dérives doit-on redouter? C'est le thème ce soir et soyez les bienvenus. Bonsoir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Fanny, c'est vous la première. Bonsoir Fanny et bienvenue.
Bonsoir Fabienne Sintès, merci de m'avoir au téléphone. Je dois parler là du coup?
Oui, vous pouvez parler,
oui.
C'est maintenant.
Excusez-moi.
Non, je vous en prie.
Voilà, alors je me suis permise de réagir parce que, bon, moi tout ce que vous venez de dire, de citer comme moyen de reconnaissance faciale, déjà ça je le fuis. Déjà le digital je le fuis, donc je pose les choses. Mais c'est surtout qu'en fait, il se trouve que je suis une jumelle monozygote. Donc ça veut dire qu'avec ma sœur, nous étions dans le même œuf, que l'œuf s'est séparé. Nous partageons le même patrimoine génétique. Mais outre ça, nous nous sommes rendus compte quand on était plus jeunes, lors de radiographies du crâne que nous avons fait toutes les deux, que notre crâne était superposable au millimètre près. Les radiographies étaient superposables au millimètre près. Donc en fait, ma question est celle-ci. Quel est le degré de perfection ou de perfectibilité? Sachant que la perfection, attention, c'est philosophique, sachant que la perfection n'existe pas. Moi, c'est vrai. Comme on dit dans le Sud-Ouest, je trouve ça gavé, flippant. Voilà.
Et en même temps, moi, je trouve ça intéressant que vous parliez de philosophie parce que il faut parler au-delà de la technologie, en fait, quand on parle de ces, et exactement, quand on parle de ces problèmes-là. J'espère que vous n'aurez jamais de jumelles maléfiques, Fanny, parce que sinon, vous pourrez avoir des ennuis.
Alors là, méfiez-vous, on ne sait jamais.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cette entrée en matière. Pour essayer de répondre à votre question, parler en tout cas ensemble jusqu'à 20h. Laurence de Villers est là. Bonsoir. Vous êtes professeur en intelligence artificielle à la Sorbonne Université. Vous êtes chercheuse au CNRS. Et vous avez écrit, puisque je l'ai sous les yeux, des robots et des hommes, c'est publié chez Plon. Bonjour Arthur Messot.
Bonsoir madame.
Vous êtes juriste à la Quadrature du Net. Est-ce qu'on peut, Arthur Messot, donner une réponse à Fanny? Est-ce que la précision de la reconnaissance faciale va jusque-là? Est-ce qu'on peut distinguer Fanny de sa sœur?
Alors, c'est pas l'objectif. Hein. Aujourd'hui, quand on voit les systèmes de reconnaissance faciale qui sont déployés depuis un certain temps, n'ont pas pour but de garantir à 100% que la personne est bien celle qu'elle prétend être, soit plutôt des buts déjà pour la police de trier une liste de suspects, ou en tout cas d'identifier des suspects possibles. Ça, c'est possible depuis 2012. Hein. La reconnaissance faciale par la police, c'est quelque chose d'assez commun. Malheureusement, on en parle trop peu. Et après, si c'est pour déverrouiller son téléphone, ben là, on peut imaginer que c'est pas très grave si sa sœur le déverrouille à sa place. On n'est pas à ce niveau-là encore.
Mais non, mais par exemple, à l'aéroport, au moment d'être sûr que c'est bien son identité, etc., est-ce qu'elle peut passer à la place de sa sœur et inversement? Ou pas,
certainement, en fait, dans l'état actuel, parce que, à moins qu'elle se soit coupée les cheveux différemment, et qu'il y en ait une qui ait les lunettes et l'autre. Parce que ça va être sur, en fait, c'est pas tellement sur la forme du crâne, hein, qu'on est à ce moment-là. On est sur, plutôt, les traits du visage. Et je pense que même quand on est jumelles, le temps fait, je sais pas quels âges elles ont, mais le temps marque.
La voix a l'air assez jeune, ça dit.
J'entends qu'on n'est plus enfant. Mmh. On se différencie d'après l'expressivité ou les traits du visage, donc et peut-être la façon de s'habiller, etc. Mmh. Et du coup, on peut être distingué comme ça. Maintenant, la robustesse à la gémellité n'a jamais été testée, à ce que je sais. Donc,
après... Mais est-ce que ça veut dire en creux, Arthur Messot, que au fond tout ça n'est pas très fiable, en fait. Au bout du compte, c'est aussi ça la question de Fanny. Alors oui, effectivement, tout le monde n'est pas jumeau de quelqu'un. Mmh. Mais au fond, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gros traits là-dedans et que c'est pas très fiable?
Alors moi, je retournerais le problème plutôt de la fiabilité qui est pas souvent, là en tout cas dans ce cas-là, qui est pas forcément ultra pertinente. Retourner le problème et de voir la question là qui nous est posée, c'est est-ce que si mon visage devient ma qualité d'identification auprès de l'administration, auprès de la police, auprès de l'aéroport, quels sont les risques? Et en fait, ce malaise, c'est ça le centre du débat. C'est on ne va plus avoir un passeport papier, on ne va plus avoir un nom forcément ou d'un mot de passe. C'est notre visage qui va devenir notre passeport, notre carte d'identité. Et le grand problème de ça, et c'est pour ça que la loi est si protectrice en théorie, quand on parle de reconnaissance faciale, c'est que le visage, on ne peut pas en changer. Mm-hmm. Sa sœur sera toujours sa sœur, et a priori...
On peut en changer avec un peu de bistouri, non?
Donc c'est un peu compliqué. Je pense que personne ici n'a
l'intérêt. Il y a plein de gens qui le changent.
Disons que tout le monde ne le fait pas.
Enfin, tout le monde ne le fait pas, mais c'est possible. Vous attendez à dire que c'est possible.
C'est possible, mais si pour échapper à la surveillance généralisée que l'État pourrait tenter de déployer avec ces outils-là, il faut recourir à la chirurgie esthétique. On voit très bien que des alertes et le mépris que le public a contre cette technologie-là est tout à fait justifié.
Non, mais il y a une confusion aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on n'explique pas assez bien à quoi ça peut servir. Moi, dans les aéroports, pour tout ce qui est reconnaissance faciale de masse, je pense qu'il y a énormément de biais, énormément de difficultés à l'utiliser réellement. Mmh. Effectivement, je suis assez d'accord avec vous, faire attention à ce qu'on va en faire. Maintenant que dans une école...
Alors attendez, il y a énormément de biais, pourquoi? Pourquoi est-ce que, par exemple, à l'aéroport, vous, si vous avez le choix entre passer par la reconnaissance faciale ou passer par la cahute du type qui vérifie votre passeport, vous choisissez laquelle? Vous qui êtes professeur en intelligence artificielle.
Non, moi je passerai par une détection faciale si j'ai besoin d'aller plus vite, par exemple, parce que je sais que sinon il y a une énorme queue.
Okay.
Donc il va y avoir, ça va dégager du temps. Par contre, derrière...
Ce choix-là...
Alors bien sûr, pour l'instant on l'a, bientôt on l'aura plus, effectivement.
Ouais. Et par contre, derrière, je sais qu'il est en train d'être testé en ce moment à nos frontières, plus que la détection faciale, la détection des émotions sur votre visage. Et là, c'est mon domaine de recherche. Et là, je dis attention, non. On n'a pas fait beaucoup d'études culturelles pour vérifier déjà si on est capable de reconnaître les émotions sur n'importe quel visage. Wow. Et là, je dis vraiment attention. La perception, c'est pas du tout la même chose que reconnaître le visage de quelqu'un.
Et alors déjà, la reconnaissance faciale, c'est effrayant. Ça, c'est super effrayant. Que ça veut dire quoi, alors, en fait? Globalement, ça veut dire si j'ai l'impression... Je sais même pas si c'est une impression, en
c'est
fait.
Ce que j'ai mis dans si j'ai pas fait moi-même ma valise.
Voilà. Si j'ai l'air un peu fébrile en arrivant, je peux être considéré comme suspect de quelque chose. C'est comme ça que ça marche?
Non, mais c'est des suspicions de.
Ouais, bien sûr.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera avant tout des facteurs additifs pour des choses. Ça va pas, on va pas décider. La machine ne va pas décider à la place d'un humain. Mm-hmm. Ça va être un facteur qui apporte quelque chose. Ce que vous disiez d'être intéressant, c'était pour la police, pour effectivement aider à repérer des gens qui seraient dangereux pour la société. On peut avoir effectivement des applications qui sont plutôt positives.
Ah, moi, ça, non, là, elles ne sont pas positives.
Non, mais attendez. Actuellement,
on va essayer de voir s'il y en a quelques qui
travaillons sur l'actuel, si vous voulez, parce que les fantasmes.
Je parlais des lois de 2012, enfin, je parlais de l'état de droit depuis 2012, hein, c'est des choses actuelles quand je parle de la police, hein, ce n'est pas du fantasme. Voilà.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais moi, je pense qu'il y a une insécurité réelle, hein, quand même, sur laquelle il faut déployer ce genre d'outils. Après, il faut comprendre comment on va les déployer, à qui ça sert, et mettre des règles éthiques dans tout cela.
Alors, je vais vous donner la parole, Arthur Messot. Juste un mot, Laurence de Villers, parce que vous l'avez évoqué, je vous ai coupé. Qu'est-ce qu'on pense de ce qui a été retoqué par la CNIL, c'est-à-dire les portiques à reconnaissance faciale à l'entrée des écoles? Il y a eu un test, une tentative, une volonté, je vais le dire comme ça, à Nice et à Marseille. La CNIL a dit non, 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 pas avec des mineurs. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Moi, je pense que c'est pas jouable, ça. Mm-hmm. Il va falloir effectivement travailler sur l'expérimentation de ces portails dans des buts particuliers, avec des règles éthiques pour la sécurité de nos enfants. Faut arrêter avec l'inefficacité de ce genre de choses. Maintenant, moi je refuse que ce soit déployé n'importe où pour n'importe quel sujet. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Comment on peut enrayer la généralisation de la reconnaissance faciale? C'est justement en commençant à l'interdire dans les écoles.
Non, parce que la CNIL là a une position qui est assez extrême et qui ne sera pas tenable.
Il faut dire ça aux législateurs européens. européen qui a juste adopté ces lois-là, que la CNIL se contente d'appliquer. Donc non, si tout le monde est extrême d'après vous...
Pour l'instant, on applique ce qu'on sait faire, vous avez raison, c'est la loi actuelle. Mais il est intéressant d'aller regarder comment on peut l'appliquer de façon intelligente, au cas à cas, avec des mesures particulières sur la santé. Il y aura sûrement des apports non négligeables sur la sécurité des enfants à l'école, je pense.
J'aimerais bien juste en parler sur la sécurité des enfants, parce que c'est un des meilleurs exemples. Nous, ce qu'on redoute dans cette expérimentation, donc c'était dans deux lycées à Nice et à Marseille, donc nous on les a attaqués devant le tribunal administratif avec plusieurs associations. Au final, on a gagné grâce à la CNIL. Ce qu'on redoute, c'est qu'en fait, ce soit des techniques de propagande pour habituer les enfants, habituer la population à des systèmes de reconnaissance faciale où ça a l'air pour protéger leurs enfants.
Il y a le téléphone qui est bien mieux.
Le téléphone fait très bien ça aussi. Non, non, mais c'est des stratégies.
C'est pas dans les écoles, ils sont en train de faire de la propagande.
C'est des stratégies concurrentes. Non, mais voyons juste toutes les choses en même temps.
Mais d'accord, mais
c'est pour ça qu'il fallait se poser.
Allez-y,
bon, alors l'argument qui est donné, c'est que c'est pour garantir la sécurité des enfants qu'on va déployer de la reconnaissance faciale. Et un argument qui est profondément fallacieux. C'est un argument qui est fallacieux et qui en fait a pour but de réduire la sécurité des enfants. Ce qu'on fait, ces lycées, et ce qu'on se revendiquait, c'est pour justifier des licenciements de surveillants, on va les remplacer par des machines. Et l'argument budgétaire, en fait, très souvent invoqué. Et l'idée de penser qu'une caméra toute seule sur un pylône va mieux protéger les enfants qu'un humain qui est formé pour aider les enfants quand ils sont dans la détresse, ou pour faire baisser la tension quand il y a un début de bagarre, ou quand quelqu'un s'est blessé. Les humains sont extrêmement importants là-dedans. Et tout cet emballement technologique a en fait pour but, comme d'habitude, de réduire les effectifs des écoles ou de la fonction publique pour mettre moins d'humains et donc moins de sécurité pour les enfants, et en fait pour faire des économies complètement absurdes.
Allez, il y a beaucoup de monde au 01 45 24 7 pile. Je voudrais qu'on écoute Francis. Bonsoir Francis.
Bonsoir.
Allez-y Francis.
Ben écoutez, moi je suis totalement opposé au principe même de la reconnaissance faciale, parce que pour une raison simple, c'est que je trouve que on change de contrat social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle il y a un équilibre entre la sécurité et la liberté individuelle, et la reconnaissance faciale touche aux libertés individuelles. C'est-à-dire que une société dans laquelle on privilégie uniquement la sécurité, eh bien, enlève la responsabilité aux individus. Alors aujourd'hui, bien sûr, on nous vend la reconnaissance faciale soft, en disant « Non, c'est pas grave, c'est du comparatif, regardez sur votre téléphone, vous le faites déjà, c'est pas un problème, etc. » Pour moi, fondamentalement, c'est un problème. Pourquoi, dans certains pays, on a interdit, aux États-Unis notamment, la reconnaissance faciale? Pourquoi c'est le seul pays d'Europe, en France, où on nous vend Alicem comme premier dispositif pour accéder à nos données soi-disant sensibles?
Vous voyez des choses au Danemark qui ne sont pas mieux non plus. Enfin, je crois que, de ce point de vue-là, en Europe, on est assez tous égaux devant quelques tests.
On est plutôt alignés sur l'Europe. Hein.
Et je trouve que, justement, si vous voulez, ce glissement progressif avec toujours cet aspect sécuritaire qui est omniprésent dans toutes les discussions que l'on nous donne, est insupportable, puisque c'est un glissement vraiment de société. Et moi, j'ai pas envie d'être dans une société dans laquelle je n'ai plus le consentement, puisque on échappe au consentement. Dès l'instant où on est filmé, eh bien, demain, ce sera dans la rue, ce sera aujourd'hui, on nous dit, c'est dans l'aéroport,
c'est déjà dans la rue, mais ça existe déjà.
L'identification, si vous voulez, dans la rue, est quelque chose d'insupportable. Parce que ça veut dire qu'on pourra pister les gens qui seront dans des manifestations, on pourra pister...
Mais c'est déjà
ça
le cas.
Existe déjà. On a déjà pu pister des gens dans des manifestations, si vous rappelez bien.
Déjà, on est désolé, mais...
Benalla, il s'est déjà fait prendre comme ça.
Pour moi, c'est un contrat social dans lequel... qui saute quelque part.
Oui, mais arrêtez, le contrat social doit être fait aussi avec l'arrivée de ces technologies. Et moi, je ne suis pas pour un refus total de cela, parce que c'est impensable, cela.
Bon, juste pour ce contrat social, je pense que c'est très important, ce qu'a dit Francis est très vrai. Et hélas, Francis s'inquiète d'un futur qui est peut-être déjà là. Il faut voir que la reconnaissance faciale dans la rue, dans les manifestations, par la police, ne sont pas des choses qui ont été autorisées par la loi. C'est le gouvernement qui l'a autorisé par un décret, par une série de décrets d'ailleurs qui n'ont pas fait beaucoup de bruit pour certains, ou alors un agencement particulier. Aujourd'hui, si un manifestant se fait identifier par un logiciel de façon automatisée dans une manifestation, du coup, pour être ensuite fiché par la police et éventuellement persécuté, c'est quelque chose que le législateur n'a jamais admis. Donc en fait, on est clairement plus dans le contrat social. Il n'y a plus de débat démocratique sur ces sujets-là actuellement. C'est le gouvernement qui, tour à tour, a accepté d'une part de ficher toute la population qui fait un passeport, une carte d'identité dans un fichier TES, qui du coup en 2016 a permis de centraliser la photo du visage de toute la population, et d'autre part qui a autorisé la police à faire de la reconnaissance faciale pour tout un tas, pour une très large catégorie d'infractions.
Dans la, pour poursuivre la question de Francis, moi la question que je me pose, on retournera au standard dans un instant, c'est est-ce que le droit à l'anonymat ça existe en fait? Est-ce que ça n'achoppe pas immédiatement avec tout ce qu'on est en train de dire? En quoi on conserve son droit à l'anonymat?
Non, il disparaît complètement là. Alors voilà. Dans la situation dans laquelle on passe, c'est-à-dire reconnaissance faciale dans la rue constante. Alors on n'y est pas encore tout à fait.
On n'y est pas du tout là. Vous êtes en train de mélanger.
Non, je suis en train de dire qu'on n'y est pas encore. Hein.
D'accord.
Laissez-moi terminer, j'allais dire.
D'accord. Donc pour l'instant, il y a un droit à l'anonymat. Pour l'instant, il y a un droit à l'anonymat qui existe.
Le droit tel qu'il est, si vous lisez les décrets, permet une massification de la reconnaissance faciale. Il se trouve qu'en pratique, il n'y a pas encore les déploiements techniques, mais en droit, en théorie, la reconnaissance faciale massive est là. Alors, je veux pas fantasmer sur ça, mais il faut décrire le droit tel qu'il est, et malheureusement, c'est ce qu'il permet. Donc, en théorie, le droit à l'anonymat dans la rue et dans beaucoup de lieux publics et privés a disparu. Et ce droit-là, c'est un droit fondamental qui est une émanation du droit à la vie privée qui est reconnu par tous nos textes fondamentaux depuis au moins la Révolution.
On va faire un peu de grammaire, hein, parce que là, vous dites, il a disparu. Pour l'instant, il n'a pas disparu.
En théorie, j'ai dit, dans les textes, il a disparu.
Non, mais arrêtez avec en théorie, en mélangeant...
La question était juridique, j'ai répondu de façon juridique.
Mais non, vous manipulez les termes, je n'aime pas du tout.
Je vous en prie.
Chacun son tour et c'est mieux comme ça. Puis c'est bien de ne pas oublier aussi qu'il y a des auditeurs. Tiens, au passage, c'est au tour de Marc, allez-y. Allez-y.
Bonjour.
Marc.
Allez-y. Bonjour, merci à France Inter, merci à vos invités. Voilà, je voulais apporter un témoignage et puis du coup une piste de réflexion, à savoir que voilà, dans mon secteur, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, est spécialisée dans divers domaines, mais notamment la sécurité publique, la connectivité multimédia et la sécurité biométrique. À ce titre, elle peut par exemple fabriquer des titres d'identité. Elle est notamment innovatrice en Asie du fameux portique biométrique pour le passage des passeports, éviter les queues pour les passeports. Mm-hmm. Et c'est manifestement un succès. Tout ça pour dire que moi, pour entrer moi-même dans mon propre bureau, que ce soit au portique d'entrée de l'immeuble. Professionnel ou que ce soit dans mon propre bureau, j'ai un accès biométrique, c'est-à-dire mon empreinte digitale pour me reconnaître. Et c'est vrai que quand on pense aux univers orwelliens ou de Philip K. Dick, qui sont déjà préexistants, enfin depuis des décennies, hein, et c'est 48 hein, pour 1984, eh bien on y est. On y est. Et ce que je voulais dire comme piste de réflexion, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui, parfois par abus de langage de la science-fiction, qui est plutôt d'anticipation, telles des séries comme Person of Interest ou d'autres, ou des adaptations de cinématographiques ou de la nouvelle littérature, eh bien finalement, ça prévisualise exactement ce qui va nous arriver en termes de potentiel de transfert sur l'IA.
Est-ce que, Laurence de Villers, nous sommes à la porte de ça, en fait? On peut pas s'empêcher d'avoir ce genre de référence.
Oui, mais c'est en ça
que je
dis qu'on n'est pas prêt dans la société à utiliser l'IA, parce que à chaque fois, on est sur des fantasmes et sur des mythes et sur de l'ASF. L'ASF est extrêmement intéressante, mais elle n'est pas la réalité. Et je pense qu'il faut comprendre quand même qu'on est en train de faire des avancées médicales importantes. On est en train de faire des avancées sur l'égalité aussi. Oui. Je suis désolée, il y a des inégalités entre les femmes, des inégalités de race sociale qui existent et que l'IA c'est débusqué. Donc arrêtons de jeter tout comme cela. C'est sans compréhension. J'entends des gens qui me disent par exemple, je ne veux pas parler à une machine, je veux pas être connu par une machine. Je dis mais l'important c'est pas ça, c'est ce qu'on fait de vos données après. Si c'est juste c'est juste pour vous ouvrir une porte et que les données vont nulle part ailleurs, c'est pas important. Et on confond tout ça et la personne me dit ah mais non, ce qui est important c'est qu'il y ait une machine qui le fasse. Alors qu'il faut se préoccuper de ce qu'on fait des données, de où elles vont, à qui elles vont servir et quel est l'industrie qui est derrière et qui s'en met plein les poches. C'est ça le vrai sujet.
C'est clairement le vrai sujet, mais je pense quand même de parler à un humain plutôt qu'à une machine, c'est quand même une chose sociale importante. J'aimerais juste répondre à cet auditeur, juste pour... Donc je comprends qu'il travaille dans une grosse boîte qui apparemment fait des choses qui nous intéressent, donc ça tombe bien. On est plusieurs associations à avoir lancé un mouvement qui est Technopolis, donc je l'invite à venir sur le forum de technopolis.fr pour venir éventuellement fuiter des documents de son entreprise s'il y a des choses intéressantes.
C'est bien ça, c'est comme fuiter.
bien sûr fuité.
Bah écoutez, il fera ce qu'il voudra, notre ami auditeur. On va pas l'inciter non plus à faire des choses qui sont.
Non, mais non. Bah, vous êtes là pour décrier le contrat social.
On n'incite pas à faire des choses illégales.
Il y a des contrats aussi dans la vie. On peut pas toujours.
Mais fuité.
On essaie de pas inciter à faire des choses illégales en réalité.
C'est pas illégal. Non, je suis désolé, mais c'est vraiment pas illégal.
Moi, ce que je voudrais comprendre.
C'est les alertes, c'est légal, c'est important. Faut le répéter.
Est-ce qu'on peut revenir à notre sujet? Moi, ce que je voudrais comprendre quand on parle justement de ne rien faire de ces données-là. Là, en l'état, dont acte, moi j'ai bien compris.
C'est ça le vrai sujet.
Non, mais très bien, j'ai bien compris. On n'en fait rien, on ne fait rien de.
Non, j'ai pas dit on en fait rien. Alors, j'ai dit, c'est la vraie question, oui, vous la posez. Voilà.
Pour l'instant, on n'en fait rien. Quand je passe à l'aéroport, etc., tout ça sera, j'imagine, détruit. Comment je peux en être sûr? Comment mais je peux être sûr qu'on n'ira pas les récupérer derrière, voilà, même non, si c'est pas vrai, etc.
C'est exactement ce sujet-là. C'est exactement ces sujets-là qui, pour l'instant, sont dans un certain état, sont pas assez débattus sûrement et sont pas assez vérifiés. Or, moi, je fais partie de comité d'éthique où on va essayer de monter précisément sur tous ces points. Comment le citoyen pourrait avoir confiance dans ces sujets s'il n'est pas au courant de ce qu'on fait réellement derrière et s'il n'en a pas la preuve?
Là, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avec ma photo?
On en est au début. On en est au début. Dans mon portable, quand ma photo me reconnaît, elle reste dans mon portable. Mm-hmm. Okay. Maintenant, dans ces sites, j'ai pas été vérifiée. Moi, je suis chercheur. J'ai besoin de faits. Ouais. J'ai besoin de mesures. J'ai besoin de vérifications et d'évaluation de la robustesse des systèmes. Donc, c'est tout cela qui est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement. On était récemment au Global Forum sur l'IA pour l'humanité.
Récemment, c'était hier et avant-hier.
J'en ai fait partie. Mm. J'ai parlé au grand public des inégalités, du potentiel de l'IA et des risques. Il est faux, effectivement, qu'on monte, nous, scientifiques, sur ces sujets avec des outils, des mesures, afin de rétablir ce qui pourrait être vrai ou pas et d'anticiper les risques. Et effectivement, de mettre des mesures en disant ça, on ne veut pas que ça existe. On ne veut pas que les données soient de masse traitées de façon aveugle par des grands groupes.
Donc
sans
il faut
qu'on n'en ait aucune conscience.
Donc il faut une sorte de quoi? De comité d'éthique, comme il en existe pour la bioéthique.
Il faut des mesures.
Qui regarderait chaque. Parce que la CNIL est là pour ça.
Oui, la CNIL a pour l'instant dit que ce
le RGPD est là pour ça au niveau
elle
européen.
Elle le prenait pas, ça suffit pas. Okay. Ça suffit pas. La CNIL a dit pour l'instant qu'elle avait pas les moyens de le faire, c'est ce qu'elle a dit, c'est
non,
tout.
Elle a pas dit ça, elle a dit
demain,
que c'était
interdit. Demain, elle le fera.
Bon. Alors, donc, on n'a pas besoin de comité d'éthique, on a besoin de loi, on a besoin de débat démocratique, c'est
on
ça, c'est ça qui nous aujourd'hui.
On a besoin d'abord de mesures.
Bon, si vous voulez,
des lois sans mesures.
Vous êtes scientifique, je suis juriste, moi je préfère les lois à l'éthique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut avoir un débat sur l'éthique de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. Là, c'est ce qui a été demandé par Monsieur Cédric O, donc secrétaire d'État au numérique. Mm-hmm. Et en fait, c'est un faux débat. Ce débat-là, on veut nous faire croire qu'on est déjà à la deuxième étape de comment on va faire pour encadrer ça et le rendre légal. Et en posant cette question, c'est une façon de cacher la première question qu'on n'a pas posé à la population, c'est voulez-vous de ce monde-là? Voulez-vous de la reconnaissance faciale? Et si on dit oui, à ce moment-là, on pourra dire de quelle façon on peut l'intégrer de façon éthique? Mais si on dit non, il n'y a même plus de débat sur l'éthique, parce qu'on l'aura refusé, parce que la reconnaissance faciale, un changement tel de paradigme, le fait de transformer son visage en passeport est quelque chose de tellement délirant et rejeté par la population qu'il n'y a pas de débat à avoir sur l'éthique. Ce nom est ferme, et ce nom, c'est le nom de la population souveraine auquel des comités d'éthique n'ont rien à dire.
Et alors, est-ce qu'on sait à 100% d'ailleurs quelle serait la réponse de la population?
Il n'y a même pas de débat législatif. Les débats législatifs, le gouvernement s'en est passé, a tout passé par décret depuis des années. Il n'y a même pas de débat judiciaire, il y en a trop peu. Et donc, en fait, on ne sait même pas. La population, apparemment, est quand même plutôt contre. Il n'y a pas de sondage. Mais
il n'y a pas de sondage, ils sont contre. Donc, c'est trop, là.
Attendez, justement.
C'est une question de rhétorique, encore une fois, qui est un tout petit peu biaisée.
Ouais, je voudrais qu'on écoute Christophe. Allez-y, Christophe. Christophe. Vous êtes là? Pardon,
oui,
je vous ai fait
là,
patienter,
oui,
je vous en prie, allez-y.
Excusez-moi, c'est pas grave. Bonsoir à tous. Ma question est plus sur les techniques d'intelligence artificielle générale. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qui décide des sujets de recherche dans ces technologies qui vont orienter la société. Ce que je vois quand même, c'est que les grandes entreprises sont bien intéressées par tout informatiser. Certaines veulent vendre des véhicules autonomes parce que il y a du business à faire. Donc elles ont besoin d'intelligence artificielle, effectivement. Elles ont besoin de 5G. Chez moi, le téléphone portable passe pas. Chez moi, on est toujours en zone blanche. Donc les sociétés, elles ont besoin de 5G. Et donc ma réflexion, c'est de dire, à mon sens, que sur ces grands sujets de recherche qui peuvent influencer la société de cette façon, je pense que le choix de l'État, le choix des instances de recherche publique devrait être impliqué.
Merci, merci beaucoup Christophe. Comment ça se passe aujourd'hui? J'ai envie de dire, c'est qui, je vais le dire comme ça, c'est qui l'intelligence artificielle aujourd'hui? Qui fait ça? Parce qu'une grande entreprise, pourquoi pas? Donc si, je vais le dire comme ça, si c'est Google qui truste tout ça et qui au final, à la fin, sera celui dans l'objectif duquel je regarderai avant d'ouvrir la porte au passeport ou n'importe où ailleurs, est-ce que ça veut dire effectivement que je n'ai aucune prise après sur ce qui se passera derrière? Mais enfin, j'ai quand même une question subsidiaire. Si c'est l'État, mais que demain, on a un régime totalitaire, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on en sait à échelle 10, 20, 40, 50 ans, peu importe, la situation, au fond, est la même. Elle est ni moins pire, ni meilleure.
Non, mais on est d'accord.
Donc, on va tous rentrer chez nous.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, on est d'accord pour dire qu'il faut anticiper tout ça. C'est ce que vous dites. Parce qu'il n'existe ni une première solution, ni la deuxième solution. Nous sommes dans une troisième solution sur l'Europe, qui est de vouloir maîtriser. Alors, peut-être que la RGPD, par exemple, on peut dire que c'est une avancée. Partout, nous l'envie. Même aux États-Unis, ils vont faire cela. Ça a été fait pour que les gens puissent être un peu maîtres de leurs données et qu'on puisse avoir confiance
en général système. Pour la protection des données. Et on va y venir parce que moi, j'aimerais comprendre comment ça marche, la RGPD. Au fond,
on en parlera après, c'est pas si important. Juste pour répondre à votre question sur Google, bon, apparemment quand même aujourd'hui nos camarades informaticiens et mathématiciens qui travaillent dans la donnée, dans l'intelligence artificielle, nous disent quand même que la plupart de leurs collègues se font plutôt recruter par Facebook, Google, et qu'il y a en tout cas que les grands cerveaux se font aspirer plutôt de ce côté-là.
Donc,
de l'Atlantique.
Faut-il mais après, créer quelque chose au niveau européen
voilà,
pour que nous maîtrisions
question.
En fait.
Actuellement, quand vous regardez le discours du gouvernement ou du ministère de l'Intérieur, leur grande peur, c'est de se faire dépasser par la Chine, les États-Unis et la Russie. Et ils disent, pour des points de vue mais purement économiques et militaires, ils disent ces armes-là, ces outils-là sont des armes militaires, sont des armes de contrôle de la population. Si on se laisse dépasser par les autres, notre industrie militaire française, qui est quand même importante, va se laisser dépasser et perdre les marchés. Donc il faut à tout prix que la loi autorise nos entreprises françaises à expérimenter sur la population française des outils militaires pour ensuite pouvoir rester compétitif comparé à la Chine et aux États-Unis. La Chine n'est absolument pas en repoussoir pour le gouvernement, c'est au contraire en concurrent, voire un modèle à suivre et quelqu'un qu'il faut dépasser en termes d'expertise technologique.
Alors, d'expertise technologique, mais pas d'utilisation manière dont c'est fait pour l'instant.
Mais comment ça pour l'instant?
Les garde-fous, qu'est-ce qu'on a comme. La question que je pose, c'est est-ce que les garde-fous existent aujourd'hui pour éviter qu'on tombe dans un excès qui serait chinois où on peut effectivement vérifier qui fait quoi, à quel moment, qui mange un sandwich à 5000 km au-dessus de nous? Mais est-ce que nous avons les garde-fous pour nous prémunir de ça, nous, Laurence de Villers?
Toute l'Europe, tous les chercheurs, ce sont des citoyens qui ont des enfants, des familles et qui ne veulent pas de ça non plus, d'accord ? Donc ils sont en train d'essayer de s'armer intellectuellement, par des mesures éthiques sur les données, qu'on savoir où elles vont, etc. À débusquer les vrais soucis qui sont que Google, etc. ne se préoccupe pas de ces niveaux-là en faisant semblant de temps en temps d'avoir cette volonté quand même de faire de l'IA pour tous. Et voilà, je pense qu'il faut attendre un peu pour savoir si effectivement les mesures vont être efficaces ou pas. Et on sera très vigilant. Et si c'est pas le cas, il faudra refuser. Mais ne faisons pas l'inverse, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas souhaitable maintenant, alors qu'on ne sait même pas si ça apporte des bienfaits ou au contraire vigilance sur l'armée.
Il y a un principe de précaution qui est quand même pas très compliqué, tant qu'on ne sait pas que c'est que c'est utile, on n'a toujours pas la démonstration que c'est vraiment utile, et tant qu'on ne sait pas si c'est dangereux, alors que ça a l'air plutôt dangereux en termes de.
Si on réfléchit aux menaces les pires.
Non, si on réfléchit aux pires menaces, c'est-à-dire. Mais fichage des manifestants généralisés, reconnaissance faciale dans la rue, ce qui serait dangereux, je pense qu'on sera d'accord sur ça. S'il y a un doute sur ça, ne faisons rien et on vous laisse, vous scientifiques, expérimenter des modèles et nous démontrer que c'est utile et
moi, non je voudrais vous montrer que c'est utile à l'école, pour la santé,
les démonstrations
pour les transports,
sont pas là encore là, en
etc.
tout cas.
Mais bien
les
sûr,
des démonstrations, mais en laboratoire, pas sur le terrain.
Mais
et
sur
nous,
le terrain, il y a des choses qui sont
rats de laboratoire en fait.
Mais non, mais il ne s'agit pas non plus de considérer les gens comme des rats de laboratoire.
Mais ce qui s'est passé à Nice et à Marseille, c'était ça. C'était des élèves qui étaient utilisés en rats de laboratoire. Mais si, c'est une expérimentation sur des élèves. Ça a été présenté.
Écoutez, moi,
comme
je vais faire des expérimentations dans les écoles pour prouver qu'on peut manipuler facilement avec un Google Home, par exemple. D'accord? Donc, c'est des rats de laboratoire aussi?
Mais là, c'est intéressant.
Là,
c'est intéressant parce que vous voulez contester une technologie et pas en démontrer.
J'essaie de démontrer ce qu'il y a d'intéressant dans la technologie et ce qu'il y a de.
Ce sera des élèves consentants à qui on n'imposera pas ça par
exemple. Mais là aussi, ils étaient consentants.
Je voudrais qu'on sorte de ce débat parce qu'on ne veut pas vous mettre d'accord et ce n'est pas le but du jeu non plus. Le but du jeu, c'est aussi d'entendre ce que les gens ont à dire. Bonsoir Clément.
Oui, bonsoir.
Allez-y Clément.
Je vous remercie de prendre mon appel et j'aimerais revenir sur cette notion d'éthique que vous avez employée à plusieurs fois, en l'occurrence en lançant cette émission, et rappeler que l'éthique, surtout, c'est une affaire d'être humain et pas d'intelligence artificielle. J'ai en tête cette anecdote. Il y a quelques années, il y avait une application qui s'appelait Kickstarter, qui s'appelait Space App, une application russe, pour retoucher les images, notamment les images de visage. Il y avait un filtre qui s'appelait Hot, qui permettait de vous rendre plus joli, apparemment. Et ce qu'on s'est aperçu, enfin, surtout les personnes de couleur, se sont aperçues que ça blanchissait leur peau. Et pourquoi? Parce que cette intelligence artificielle, elle a été entraînée avec l'apprentissage profond, avec une base de données que ces chercheurs, ingénieurs, considéraient comme des jambots. Ces jambots étaient blancs, majoritairement. Et donc, du coup, je pense pas que l'IA n'était pas éthique ou pas, c'est simplement l'IA a révélé l'éthique qu'il y avait derrière les personnes qui la conçoivent. Et je pense qu'on pourrait être très prudent, justement, lorsqu'on parle d'une IA éthique ou pas, puisque c'est un cache-nez, justement, pour cacher qu'il y a des gens derrière qui les conçoivent. Et c'est ces personnes-là qu'il faudrait peut-être bien former.
Attendez, Clément, on va vous mettre sous verre parce que vous venez de mettre nos deux invités d'accord. Ils sont tous les deux en train de faire 100% oui avec
d'accord.
la tête.
C'est l'humain qui crée les machines et qui va créer les mesures et l'éthique autour.
Qui va en abuser. Et c'est l'humain qu'il faut contrôler plus que la machine.
Bah oui, on est d'accord. Oui, ça veut dire que la technologie est neutre, mais c'est l'usage
qui est dangereux. La technologie n'est pas neutre, non.
Si, là, en l'occurrence, elle est neutre. Donc, mais c'est l'usage qui est dangereux, au fond, c'est ça.
C'est complètement ça. La technologie, elle est rien. Non, mais elle n'a pas d'intention.
Bah alors, on peut transposer cette démonstration à beaucoup de choses. Les Américains disent que les armes ne sont pas dangereuses, c'est l'usage qu'on en fait qui est dangereux.
C'est pas vrai. Les Américains sont d'accord pour diminuer la production de bombes nucléaires. Donc, les Américains eux-mêmes reconnaissent qu'il y a des technologies qui sont profondément pas neutres et négatives. Et nous, on veut bien dire qu'il y a certaines technologies liées à l'intelligence artificielle qui sont dangereuses.
Alors, la reconnaissance faciale n'est pas neutre. Est-ce qu'on peut aussi se mettre d'accord sur le fait qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément des choses négatives liées à l'intelligence artificielle et au-delà même peut-être de la reconnaissance faciale? Je voudrais qu'on écoute Sébastien. Bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne. Oh. Merci beaucoup pour vos émissions et la qualité des intervenants.
Allez-y.
Alors effectivement, on a focalisé le débat sur l'intelligence artificielle uniquement sur la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est qu'une infime partie de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui permettent d'assister les docteurs et d'améliorer leur diagnostic. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce genre de choses? Et puis juste entre parenthèses et pour finir, moi j'ai plus confiance en l'État français et en la CNIL qu'en Google.
Bah oui, vous avez raison. Bah
oui.
Google n'a pas le pouvoir de vous mettre en prison, vous savez. L'État français. Google n'a pas le pouvoir de vous mettre en garde à vue ou en prison. L'État français, il le fait.
Par contre, Google a le pouvoir de me supprimer, de me ponctionner de l'argent.
Heureusement qu'il y a un État avec de la police. Attendez, si on laissait parler notre auditeur. Oui. Allez-y.
Je vous remercie. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut contrôler et un petit peu encadrer ce genre de choses. Par contre, j'ai vachement plus confiance en mes chercheurs au CNRS, dans des laboratoires de recherche, plutôt qu'encore une fois en Google. Votre téléphone, monsieur. Vous l'avez synchronisé avec votre compte Google ou pas?
Non.
Ah bah non, ça c'est pas le style de la maison.
C'est pas ça, j'y arriverai pas.
Est-ce
même
que vous
si
avez un portable, Arthur?
Oui, un vieux téléphone.
J'en étais sûr.
Encore une fois, moi je remercie la qualité de vos intervenants, mais est-ce qu'on peut ouvrir le débat et puis surtout se rendre compte que l'intelligence artificielle, c'est quand même une opportunité fabuleuse pour l'espèce humaine?
Tout à fait, et pour la médecine, comme vous l'avez très bien dit. Et je pense aussi pour l'égalité des sexes, des genres, parce que on peut démontrer, de la même façon que vous avez donné cet exemple sur le problème de race, que les femmes sont moins payées, qu'elles sont moins présentes un peu partout. Et ça, on le fait parce qu'on sait quantifier les choses et qu'on sait aussi raisonner avec des réseaux de neurones sur un grand nombre de données, etc.
Ça se fait quand même plusieurs dizaines d'années que la recherche en sociologie a permis de démontrer ça. Il n'y avait pas besoin de machines pour faire
mais
ces démonstrations.
Les machines, là, ça met les gens devant une évidence que vous ne pouvez même pas imaginer.
Arthur Messot, on ne peut pas non plus supprimer les machines intégralement. Est-ce qu'il y a des domaines, y compris pour des gens comme vous, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous vous dites oui, là-dessus, on fait des progrès et on progressera, y compris autour de l'intelligence artificielle ou pas? Est-ce que tout est à jeter, au fond, ou pas?
Nous, on est vrai sur ce principe de précaution qui est, regardons les deux fantasmes en face, le fantasme là qui a eu chez beaucoup d'auditeurs de la surveillance généralisée et qui nous inquiète nous aussi, et après il faut aussi regarder le fantasme là qui était évoqué à l'instant, où ça va faire améliorer la société. Bon, calmons-nous et juste,
donc disons, qu'est-ce qu'il y a au milieu?
En attendant, d'abord, ce qu'il y a au milieu, c'est la patience et la rigueur. Ne faisons rien, nous nous embarquons dans aucune des deux voies tant que les démonstrations ne sont pas plus produites. Et actuellement, c'est pas ça ce qui se passe en France. Actuellement, en France, on donne le deuxième fantasme, on l'agite devant tout le monde, plus de sécurité, plus de bonheur grâce aux machines. On dit attendez, faites la démonstration. En attendant, on interdit tout ça. On met tout au frein et vous revenez en arrière 2 minutes. Et après, une fois que vous aurez démontré que c'est pertinent, avec les bons chiffres, on pourra en débattre collectivement. Nous, ce qu'on regrette dans cette question, est-ce qu'il y a des bons usages, des mauvais usages, c'est qu'il faut avoir des réflexions répartis pour chaque usage. Aujourd'hui, on donne toujours la médecine, mettre en avant le cas de la médecine, qui serait intéressant à questionner aussi, hein. Mais pour nous dire, regardez comme l'intelligence artificielle, c'est génial, on va sauver des vies. Oui, peut-être que pour ce cas, oui, mais ça ne justifie pas toutes les autres applications qui, elles, par exemple la reconnaissance faciale, et c'est pour ça qu'il faut insister dessus, elle, apparemment, n'a rien de positif comme effet, n'a que des effets risqués de surveillance généralisée. Donc peut-être, parlons de la médecine.
Mais donc inversement, si on rejetait la reconnaissance faciale, pourquoi pas ? Ça ne veut pas dire rejeter l'ensemble du reste, en fait. Jette pas un peu trop le bébé avec l'eau du bain,
mais
en
je
fait
sais pas, Je ne sais pas à qui vous adressez. Nous, notre seule exigence à la quadrature du net, et pour beaucoup d'autres gens, c'est d'interdire la reconnaissance faciale, aujourd'hui, quand elle est mise en œuvre par l'État ou des entreprises. Sur les autres applications de l'intelligence artificielle, faisons du cas par cas et allons-y calmement. Peut-être que sur d'autres matières comme la reconnaissance en matière vocale de la voix, peut-être qu'on arrivera à la même conclusion. Il faut y aller petit à petit, arrêter de penser que l'intelligence artificielle c'est un seul domaine, une seule matière. Et sur ça, on sera d'accord, je pense, hein, pour dire qu'il faut réfléchir plus.
Il faut réfléchir au cas à cas sur la reconnaissance faciale.
Et réfléchir de toute façon tout le temps. Une question de Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir, merci France Inter de me prendre.
Allez-y.
Merci pour vos émissions. Ça va être rapide. Plusieurs fois, il a été dit que les données ne seraient pas conservées. Cependant, comment l'IA peut, surtout la reconnaissance artificielle, peut fonctionner sans conserver nos données, sachant en plus que la plupart des logiciels utilisés par l'armée ou la police, c'est du Windows Microsoft et qu'il y a des backdoors de partout.
Merci beaucoup Stéphane. Et au fond, c'est bien qu'on arrive au terme de cette émission parce que je trouve que ça ramasse bien tout ce qu'on a dit, la question de Stéphane. Ça dit, en creux, ça dit, après tout, pourquoi pas, j'en sais rien, mais je ne comprends pas comment ça marche.
Expliquer pourquoi, hein. la police...
Et là, typiquement, pardonnez-moi, oui, il a raison, comment ça marche pour fonctionner sans base de données?
La police, elle a une base de données dans le traitement des antécédents judiciaires, c'est un grand fichier l'otage, il y a 8 millions de photos prises de face de personnes qui ont affaire à la police. Dans le fichier TES, qui répertorie toutes les personnes qui ont une carte d'identité ou un passeport, il y a la photo du visage à terme de toute la population. Et cette base de données-là, elle est accessible à la police, donc c'est une base de données. Quand vous regardez les applications commerciales, mais quand vous acceptez de faire vieillir votre visage avec cette application, ou quand vous acceptez de vous connecter à France Connect via par exemple une application proposée par Orange, Mobile Connect et moi, qui est très proche d'Alicem, votre visage va venir nourrir et entraîner l'intelligence artificielle derrière, et vous n'avez pas le choix d'accepter que votre corps vienne nourrir une machine. C'est obligatoire pour utiliser l'application. Donc ces données-là, elles sont conservées. Évidemment qu'elles sont conservées, la question est très bonne.
Laurence de Villers, qu'est-ce qu'on peut répondre à notre ami qui dit, mais attendez, mais évidemment qu'elles sont conservées ces données-là, qu'est-ce qui va se passer après? Comment on sait que techniquement que ça se passe, nous qui sommes dans la vie?
C'est bien ce qui me semble, on diabolise sans du tout quand on comprend ce qu'il y a dedans en fait. Donc effectivement, on a une certaine partie de nos données qui sont sur notre passeport biométrique, qui correspond à des données qui sont encryptées. Ensuite, on va faire de l'identification, c'est facile, vous avez un passeport biométrique, donc on peut vérifier que le visage qu'on voit sur l'écran correspond à l'image qui est stockée. D'accord?
Elles sont aussi concernées dans un fichier centralisé, qui est géré par le ministère de l'Intérieur. C'est dans la loi, c'est décrit comme ça.
D'accord.
Je le rappelle. Non, depuis 2016.
Depuis 2016, très bien. Non, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'était cet amalgame entre tout et n'importe quoi. A priori, quand vous passez à la douane, on ne va pas garder vos photos, on ne va pas garder vos données. Donc, il y a une donnée qui est celle qui est dans un fichier biométrique tenu par la police pour notre sécurité à tous, j'imagine. Et de l'autre côté, il y a le fait que vos données, il y en a sans arrêt, puisque vous avez des caméras, votre portable enregistre des trucs et tout. C'est ces données-là qu'il faut garder en les protégeant sur le portable, ou en tout cas être conscient si elles sont captées par quelqu'un d'autre, comme le font la plupart des jeunes en mettant leurs données sur Facebook, etc. Elles sont capturées par les grands groupes, et là, effectivement, on ne sait pas ce qui est fait derrière, si elles sont vendues, et c'est ce qu'on a vu, avec
ce qui est fait derrière, c'est décrit dans les conditions d'utilisation, en effet, elles sont exploitées pour tout un tas de finalités, et sont
abusées. Donc ça, je suis désolée, il faut vérifier comment c'est fait, le contrôler, et c'est pour ça qu'on monte sur des comité d'éthique sur des métriques et des vérifications de tout cela.
Mais vraiment, il est 59 et on a 1 minute 30 de pub théoriquement, et c'est dire en tout cas que cette discussion non seulement n'est pas finie, mais que...
Non, elle n'est pas finie.
Il y a encore beaucoup...
En tout cas, ne diabolisons pas avant de savoir ce qu'on va en faire.
Et interdisons en attendant.
Et beaucoup d'interrogations de la part de ceux qui nous écoutent, qui méritent des réponses claires quand c'est le cas. Merci mille fois.